Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, hein. Émission un petit peu particulière ce soir puisque nous sommes gâtés, hein. Nous sommes à la maison du handball à Créteil, donc on aura naturellement tout plein d'intervenants, hein, pour un petit peu mieux connaître ce qu'on y fait. Et puis on va commencer d'ailleurs à faire le tour de table. Je vais d'abord saluer mon ami Philippe Rajot. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous.
Ouais, merci en tout cas parce que tu as joué les intermédiaires quand même, hein, et c'est un petit peu grâce à toi si on est là ce soir.
Oui, écoutez, bienvenue à la maison du handball.
Oui, quel plaisir. Hein.
Je pense que ce tournoi méritait de faire un direct. Il y a des jeunes filles qui sont là parmi nous.
Très bien. Alors justement, je vais saluer aussi l'équipe qui va m'entourer. Je vais d'abord faire un petit coucou à Vanessa. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Philippe, bonsoir
ça
à tous.
Ça va ? Il y a un micro qui n'est pas branché là.
Très
donc
bien.
Ça va s'arranger. Voilà. Et puis Alexandre, bonsoir Alexandre.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Oui, ça va ?
Bonne ça va, je suis très heureux d'être là. C'est très très beau, bel accueil. Donc rien à dire.
Très bien. Allez, puis on va accueillir nos premiers invités. Hein. Je sais qu'on va les remercier, ils sont assez pressés. On va commencer avec Eric Barada, l'entraîneur des U20, responsable de du projet Performance et ancien adjoint donc de Crumble. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci en tout cas d'avoir répondu donc à notre invitation. Et puis on va aussi saluer donc Mélissa Chantelli, la capitaine. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Et capitaine de l'équipe U20, c'est ça, hein ?
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc tu vas nous parler un petit peu de ton quotidien. Alors d'abord, on va commencer par toi. Parle-nous un peu de cette maison du monde. Comment tu vis ce quotidien ?
Déjà, on vient quelques semaines dans l'année pour travailler. Ouais. Du coup, on a un regroupement avec notre génération, donc 2005-2006. Mmh. Et du coup, on vient la semaine pour s'entraîner à la maison du monde. Et la plupart du temps, on a des tournois à la fin de la semaine.
D'accord. Donc toi, tu as commencé le monde quand ?
J'ai commencé en moins de 13, à Libourne.
D'accord, Libourne, et après, direction la région parisienne.
Non, je joue à Mérignac, dans D'accord. mon club, et du coup, on vient en rassemblement.
Oui, ici, la région parisienne, pour venir, oui, justement, voilà. C'est ce qu'on disait, donc travailler. Alors, parle-nous un petit peu de tes journées types, ça se passe comment ?
Alors, on a entraînement le matin. Mm-hmm. Non, souvent, on a vidéo avant.
Ah.
Après, on a entraînement.
Important, la vidéo.
Oui, c'est important.
Ouais.
Après, on a entraînement. Après, on mange, souvent, on fait de la récup après entraînement, on mange. Ensuite, on a une période de sieste. Mmh. Il y a aussi des soins pour celles qui sont blessées.
Ouais.
Ensuite, on se réentraîne encore une fois. Mmh. On a de la récup, on a de la balnéo, on va manger et puis en plus, on va se coucher.
Voilà, donc tu es capitaine de cette équipe U20. Ça va les coéquipières ? C'est sympa ? Ça se passe bien ? Le collectif va bien ?
Elle va très bien, elles sont super gentilles et voilà, je suis très contente d'être là.
Très bien. Alors, on a ton entraîneur, donc Eric. Eric, c'est bien d'entraîner telle équipe comme ça ? Ça fait... C'est bien, ce sont des filles faciles à entraîner.
Faciles à entraîner, je ne sais pas.
Dites-moi tout.
Mais
dites-moi
en tout cas, c'est évidemment un honneur d'encadrer la relève du handball français. Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr, parce qu'on présentera tout à l'heure mieux ce qu'on fait dans le hand. Ces filles-là, on a vu, elles viennent de province, elles viennent de tous les meilleurs clubs. C'est celles qu'on verra peut-être... au prochain jeu, en 2028 ou 2032 ?
Bah, il faut leur souhaiter, en tout
cas.
Oui. Les places sont chères en équipe de France
A.
Donc, chaque année, il sort un lot de joueuses de l'équipe de France U20. Mm-hmm. Là, on est sur une génération précédente, la génération 2005-2006, qui a été championne du monde, qui vient d'intégrer 4 jeunes joueuses dans le collectif France A. Mm-hmm. Mais bon, elles n'y ont pas encore... gagner leur galon. Hein. Elles commencent juste à mettre le pied à l'étrier. Mmh. Donc, tout le mal que je peux souhaiter à Mélissa et ses copines, c'est qu'il y en ait quelques-unes qui puissent s'intégrer. Mais les places sont très chères.
Oui, c'est sûr. En tout cas, quand on est entraîneur comme vous, c'est fabuleux quand même d'entraîner dans de telles conditions, avec un tel complexe.
Oui, oui. Alors les conditions de travail à la maison du handball sont tout à fait exceptionnelles, c'est vrai. Quand en 2018, la maison du handball est arrivée dans notre quotidien, elle a changé nos pratiques, puisqu'avant on était des itinérants. Donc on allait en stage dans différents endroits avec des transferts entre l'hôtel et puis le gymnase. Ça avait son charme, mais en termes de confort, d'unité de lieu, de capacité à mettre les athlètes dans un environnement de haut niveau, c'est évidemment incomparable.
Oui, parce qu'on a eu l'occasion de visiter un peu le centre. Vraiment, tout y est pour faire de la France du Nord une grande nation.
Elle est déjà. Alors, moi, je mettrai les choses justement en sens inverse. C'est parce que un jour, il y a quelqu'un qui s'appelle Daniel Constantini pour le handball masculin en particulier. Mmh. Et après, on va dire pour le handball féminin, Olivier Combolz, sur la fin des années 80 pour les garçons, la fin des années 90 pour les filles, on sorte du néant, là où on ne veut plus jamais retourner. Mm-hmm. C'est parce que la France du handball au global, les ligues, les comités, ont fait des efforts conséquents pour qu'on ait un travail de détection, que la fédération a poursuivi après au niveau des sélections nationales, qu'on a obtenu des résultats et que ces résultats ont fait en sorte que le handball français, masculin et féminin, soit reconnu à sa juste valeur et qu'on puisse, derrière le football qui avait Clairefontaine depuis très longtemps, le rugby qui avait Marc aussi, qu'on puisse devenir le troisième sport à bénéficier d'un outil qui lui est propre, qui accueille la Ligue de France aussi, et puis qui a une triple vocation, la vocation de siège administratif, bien sûr, la vocation de centre technique, mais qui a aussi une vocation économique, puisqu'il y a beaucoup de séminaires qui se déroulent ici. Donc, c'est un lieu d'ouverture.
Oui. Et... Alors, justement, le fait qu'il y ait la Fédération et la Ligue Île-de-France, c'est plutôt un avantage, tout groupé comme ça, dans un même bâtiment, administrativement.
Oui, totalement. Totalement, parce que la Ligue Île-de-France, c'est une ligue plus qu'importante. Mmh. C'est-à-dire qu'elle est totalement singulière par le potentiel humain et par l'apport qu'elle a aux équipes de France, génération après génération. La Ligue Île-de-France est une ligue majeure. Et puis l'implantation du handball en Île-de-France est extrêmement importante. Donc oui, c'est une manière de donner du sens au quotidien, aux échanges avec nos amis de la Ligue francilienne. Oui, bien sûr.
Oui. Et vous parliez de Marc Houssy et Clairefontaine. Vous êtes un petit peu inspiré quand vous avez monté ce centre? Vous êtes un petit peu inspiré d'eux? Vous êtes allé voir? Vous avez travaillé un petit peu avec eux?
Alors, peut-être pas sur certains aspects de la conception, mais en tout cas sur certains aspects de la gestion, oui, puisque jusqu'à il y a très très peu de temps, le directeur d'exploitation s'appelait Delfino Isidoro, et que Delfino Isidoro, ici, et il avait une petite particularité, c'est qu'il avait travaillé comme directeur d'exploitation à Clairefontaine, puis qu'il avait fait l'ouverture de Marc Houssy. Donc on s'est effectivement un peu inspiré de... Mais après, on essaye d'être dans notre singularité. Le handball n'est pas un sport court d'extérieur. Et puis le handball n'a pas les moyens économiques non plus du football ou du rugby. Mais on est quand même très, très fiers de cet environnement avec 75 chambres. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup dans cet environnement, c'est que pour les gens qui le visitent, ils racontent une histoire. Ils racontent l'histoire du handball français. Et ça, c'est bien. C'est pas un lieu inodore, incolore. Oui. C'est un lieu marqué d'histoire.
D'ailleurs, on fait cette émission dans la salle André Amiel, un ancien président de fédération quand même.
Tout à fait. J'ai eu le bonheur d'avoir comme président quand j'étais avec França. Et puis, qui était une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect.
Ouais, dans la rue Daniel Constantini, ça ne s'invente pas.
Ça ne s'invente pas. C'est-à-dire que la rue n'existait pas quand on a monté la maison du handball. Voilà. Donc voilà. Et effectivement, je trouve que c'est une bonne dénomination parce que c'est certainement le précurseur de beaucoup de choses dans le handball français, Daniel.
Alors, j'aimerais savoir quand même un petit peu, quel est votre quotidien? Comment vous travaillez? Comment on va justement à la pêche chercher ces jeunes filles de province pour les sélectionner?
D'abord, on les cherche de loin quand elles sont beaucoup plus jeunes. Donc, Mélissa, quand je l'ai vue jouer pour la première fois au handball, elle ne savait même pas que je l'ai vue jouer, mais elle devait avoir 13-14 ans maximum. Je l'ai vue jouer, elle était dans ce qu'on appelle la première compétition de détection qui s'appelle les intercomités. Elle jouait avec le comité de Gironde à l'époque et elle jouait pour le club de Libourne. Donc, on gratte le terrain partout, dans l'Hexagone, mais aussi beaucoup en Outre-mer, puisqu'on est une fédération très présente en Outre-mer. Donc, on a des pôles aussi en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, et on est même la seule fédération, et je veux dire, là uniquement en féminin, à avoir un pôle à Mayotte. Donc, vous voyez, on est présent partout. Donc, voilà, on cherche les jeunes filles, puis après, on les attire doucement dans nos filets en les faisant venir à la maison du handball. et puis, surtout, peut-être que la spécificité, c'est d'essayer de les prendre en compte dans leur globalité, c'est-à-dire de ne pas juste les considérer comme deux bras, deux jambes qu'on met dans un short et un maillot, mais de considérer que ce sont des jeunes femmes qui ont une vie sociale à côté et qui ont un projet de vie. Nous, on n'a pas de projet pour elles, on essaye de les accompagner.
Alors justement, Mélissa, toi, en dehors du monde, ton quotidien, c'est quoi? Tu fais des études? Tu peaufines ton anglais, par exemple?
Non.
Non, pas du tout, pas du tout.
Non, vraiment non pas. Ah, c'est ouais problématique, en effet. Ah. Mais du coup, je suis en études et j'étudie STAPS-LAS sur Bordeaux. Voilà.
D'accord, ok. Bon, après, le hand, tu te fixes aucune limite, quoi. Tu verras, quoi.
Ouais, voilà.
Ouais,
le
c'est
plus
ça
loin sera le
ouais,
mieux.
Tu prends la vie du bon côté.
Oui.
Ouais. Et là qu'on est au côté, ouais. Est-ce que c'est vrai?
Oui, oui, je crois que Mélissa est une bonne vivante, effectivement.
Je confirme. Et donc... T'as pas d'autres objectifs que le handball, quoi, pour l'instant, dans l'immédiat?
Bah, si, parce que mes études, c'est important pour
ah,
moi
bah
quand
voilà
même.
Voilà.
Du coup, j'aimerais réussir mes études.
Oui.
Du coup, j'aimerais, si possible, rentrer en école de kiné.
Voilà.
Et réussir à allier, du coup, le projet sportif et le projet socio-professionnel.
Mmh. Et ça va, on y arrive?
Oui.
Oui, non, parce que on sait que c'est des problèmes d'organisation quand même.
Bah oui, il faut vraiment bien s'organiser, mais il y a beaucoup d'aide aussi avec l'université. Il y a le service phase et tout qui nous aide à aménager nos cours, nos emplois du temps pour qu'on puisse et allier le handball et les études du coup.
Mm-hmm. Quand on est entraîneur, on est aussi fatalement un petit peu psychologue. Il faut accompagner ces filles, elles n'ont pas toutes le même caractère. Il y a des moments de doute, il y a des moments d'euphorie.
C'est ça la cohésion d'équipe. Je ne sais pas si, en dehors de ma présence, si vous posez la question à Mélissa, elle va vous répondre que je suis très psychologue.
Non, mais...
Bon, ça va.
Ça va.
Oui, ça va.
Ouais.
Non, mais bien évidemment, on essaye de les prendre dans leur singularité.
Oui,
voilà,
ah oui.
Ça, donc, on essaye de comprendre qui elles sont et de partir d'elles pour construire un projet. Mais on pratique un sport co.
Oui,
donc il y a une part du chemin qu'on fait vers l'individu. Puis après, on a une exigence aussi pour que l'individu fasse une part du chemin vers le collectif. Pas vers nous, coach, en tant qu'individu, mais vers l'efficacité collective. Ah, donc en plus de ça, dans la génération de Mélissa, dans l'équipe dont elle est la capitaine, c'est une problématique très actuelle, ça.
Oui. Et alors, capitaine, comment ça se passe? Tu parles beaucoup à tes coéquipières, tu leur remontes le moral,
J'essaye du mieux que je peux, en tout cas, de leur remonter le moral s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit. J'essaye de parler le plus possible sur les problématiques, justement.
Mmh, oui.
Et voilà.
Oui. Donc ça se passe bien, ça va.
Oui, ça va.
Bien,
oui.
C'est quoi ton poste, au fait? Tu joues quel poste?
Je joue un peu partout, arrière-gauche, arrière-droite, demi-centre quand, des fois. Mais...
Mmh. Qu'est-ce qui a le plus changé au niveau... du hand ces dernières années, le côté physique peut-être?
Oui, bien sûr.
Oui. Non, mais c'est comme dans tous les sports.
Oui, voilà. Il n'y a pas de chemin vers le haut niveau aujourd'hui dans le handball féminin si vous n'avez pas de très grosses qualités physiques. Toutes les filles qui arrivent en France U20 ont toutes de grosses qualités physiques. Après, ce n'est pas suffisant, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, la vitesse de jeu qui va avec. Et puis, certainement, parce que c'est l'histoire de tous les sports co, une forme de polyvalence. C'est-à-dire que vous n'êtes pas enfermé dans un rôle et dans un poste. On doit un petit peu dépasser sa fonction. Voilà. Donc, le handball féminin est en plein mouvement et des joueuses des années 80, à la vitesse à laquelle ça avait, à laquelle ça allait à l'époque, n'existerait absolument plus aujourd'hui.
Oui. Et puis, bon, on l'a dit tout à l'heure, les premiers résultats donc, des hommes, hein, les Bargeaux 92, le premier titre en 95. Ensuite, ça a drainé tout le reste. Hein, ça a emmené, les filles ont commencé à gagner après, notamment en 2003.
Oui, alors bon, oui, effectivement, il y a ce qui est un petit peu considéré comme un exploit quand effectivement la finale à Zagreb, quand on est mené de 7 buts à 8 minutes de la fin ou à 6 minutes de la fin contre la Hongrie. Bon, c'est un truc, ça arrive une fois tous les siècles, et il a fallu que ça nous arrive en finale des championnats du monde. Donc bon, voilà. Mais la vraie percée, elle est en 98. Le handball féminin français n'existait pas sur la scène internationale, et on se retrouve en finale. On n'avait jamais fait mieux que dixième dans un mondial. Mmh. Et on se retrouve en finale un dimanche soir avec 12 millions de téléspectateurs.
Oui.
Donc,
c'était face à la Norvège, non ? C'est pas ça ?
Oui, tout à fait.
Je m'en rappelle.
Tout à fait. Et donc, à partir de là, ça a généré une ambition. On a mis du temps, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'équipe de France, elle est installée... je veux dire, sur le podium olympique, parce que depuis Rio, on a fait argent, or à Tokyo, argent à Paris. Mais on a mis du temps entre nos premiers Jeux olympiques à Sydney et puis la médaille à Rio. Ça a été long.
Mmh. Et puis, il y a eu quand même pas mal de finales perdues à un moment, quand même. Même si ça a été des médailles d'argent, mais bon...
Oui, mais quand vous êtes dans le plus haut niveau, je veux dire, là, actuellement, il faut quand même avoir en tête que... bon, pour les raisons que tout le monde connaît, la Russie n'est plus invitée et que bon, ça fait quand même un adversaire de moins redoutable. Mais la Norvège, le Danemark sont des adversaires absolument redoutables. Et effectivement, on a perdu quelques finales contre les Norvégiennes. On en a gagné aussi.
Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis bon, on parlait d'Olivier Crumble. Il y a eu aussi de Daniel Costantini. Hein. Il y a eu des entraîneurs quand même charismatiques, aussi Claude Onesta. Ça aussi, ça a beaucoup fait.
Bah, évidemment, je veux dire que c'est... Ne pas reconnaître le talent sur la durée des gens qui ont des résultats, c'est même pas discutable, je veux dire, ce qui a été fait. Après, chacun a ses caractéristiques.
Oui,
Daniel a été un précurseur. Claude a été un homme qui a géré une équipe avec un potentiel extraordinaire, mais qui a eu la capacité à faire en sorte que, justement, en ayant peut-être 10 des 20 meilleurs joueurs du monde sous sa coupe, au lieu qu'ils s'entretuent, ils fassent cause commune avec le succès qu'on connaît. Olivier, c'est encore une autre méthode. Alors bon... Les médias ont fait plein de papiers pour raconter qu'il y avait un nouveau Crumbles après 2016. Moi, je me suis toujours inscrit en faux. Je pense qu'il n'y a qu'un seul Crumbles, mais comme Crumbles est un homme extrêmement intelligent, il a su s'adapter à la situation. Mais par contre, pour moi, il n'y a toujours eu qu'un seul Crumbles.
Non, puis ce qui est fabuleux, c'est que les générations, elles se renouvellent assez rapidement, quoi.
Ça, c'est notre travail.
Ouais,
Ça, c'est justement comment on réalimente la pompe. Quand on regarde ce qui s'est passé dans les trois dernières Olympiades, vous vous rendez compte que les filles qui ont fait médaille d'argent à Rio, il n'y en a que sept qui ont gagné le titre ensuite à Tokyo. Et dans celles qui ont gagné le titre à Tokyo, il n'y en a que huit qui ont fait la finale à Paris. Donc, sur 16-17 joueuses. Donc, ça veut bien dire, effectivement, qu'on a actuellement une filière de renouvellement de l'élite qui est relativement performante.
Donc, tu vois, Mélissa, ce qui t'attend, quoi.
Hein, j'espère.
Pour la suite. Philippe, toi, qui as connu toutes les époques, c'est vrai que c'est une évolution formidable. Hein.
Oui, c'est une évolution. Puis, c'est le travail fourni par tout l'encadrement de la fédération. Mmh. Et là où on en est, je pense qu'on est au plus haut et tout le monde nous demande plus. Et le problème, c'est qu'à un moment, on est toujours dans notre carré final, mais il faut derrière un gros travail, que ça soit Eric, que ça soit tout le monde. Et en fin de compte, on aperçoit que le travail paye.
Oui,
et c'est vrai qu'on a l'outil pour finir, pour pouvoir amener tous ces gens-là au haut niveau. Et le tournoi en fait partie.
Oui.
Un instigateur, il est en face de moi. C'est Eric, c'est Philippe. On a décidé un jour de commencer ce tournoi avec la ville de Meudon.
Oui, bien sûr.
Et puis c'est parti. Et puis je pense qu'on voit des gros matchs. Et la prochaine édition qui arrive va être très bonne.
Alors justement, Mélissa, ce tournoi, vous l'abordez comment ?
Mais pour gagner.
Voilà, c'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de persévérer dans ce sport ? Peut-être. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ ?
Déjà, mon père, il faisait du handball, donc du coup, depuis très petite, j'étais baignée dans le monde du hand. Et après, je sais pas, déjà, je trouvais qu'un sport collectif, c'est toujours... quand on gagne ensemble, c'est vraiment incroyable. Et l'ambiance aussi, j'aime beaucoup l'ambiance des salles, quand ça crie et tout.
Ah oui, c'est ça. Et puis après, bon, avec les copines, on fête les victoires, donc ça aussi, c'est bien.
Ça, c'est génial.
C'est ça, le collectif. Hein.
Oui.
Ouais. Et ça va à Bordeaux, le hand à sa place ?
Oui, ça va.
Ouais. Oui. Hein. Très bien. Bah, écoutez, j'avais promis de vous libérer pas trop tard, hein, parce que je sais qu'il y a quand même une vie à vivre, hein, donc oui. À respecter, une hygiène de vie à respecter. Merci en tout cas.
Merci. Voilà.
Voilà. Voilà. Bon, au revoir. On va donc maintenant demander à Philippe et puis donc à Madame la maire adjointe de Meudon de les remplacer à ce micro. C'est vrai que Philippe, on va peut-être un petit peu parler de l'historique de ce centre.
Oui, écoute, le problème il est, c'est que l'historique, on a.
C'est 2018-2019. Hein.
2019. Ouais.
Le projet est venu comment ? C'est arrivé comment ?
Le projet est venu comment ? C'est que ça faisait longtemps que la fédération voulait faire avoir un site. Mmh. Bon, il fallait trouver l'endroit, il fallait trouver les sous, on va dire. Et puis je pense que dès l'instant où on avait les résultats que les équipes de France avaient, on était dans une obligation d'avoir un site à nous. Le rugby, le foot. Oui, le judo aussi.
Villebon, je crois, c'était le judo, mais enfin bon, ça capote un peu.
Le judo à Villebon, après, du coup, ils sont partis, quand ils ont vu que Villebon, ça a capoté, ils sont partis à Porte de Châtillon, où ils ont fait, et je pense que de toute façon, si on veut avoir du haut niveau, il faut qu'on ait un centre à nous, pour pouvoir, il faut savoir le nombre de personnes qui passent là, c'est incroyable.
Oui, mais alors, ce qui est incroyable, c'est que le hand a son Clairefontaine, son Marcoutis, le basket, on n'a pas, par exemple. Le volet non plus.
Le gros problème, je pense que basket surtout, c'est que les meilleurs. Nous, on a la chance dans le handball de garder tous nos meilleurs éléments à partir de junior, senior. On les garde quand même que là. La plupart, c'est la NBA tout de suite. Donc ça veut dire qu'à un moment, le centre. Ils ont une académie quand même. Hein, ils ont une académie, mais les meilleurs joueurs, ils sont draftés tout de suite et ils s'en vont.
Mm-hmm. Ouais. Donc l'argent. Oui, Philippe, donc Plushenko,
bonsoir,
c'est ça.
À tous.
Bonsoir, ça va bien,
bonsoir.
Philippe.
Ça va.
Ouais.
Ça va.
Président de la Ligue Île-de-France.
Comme l'a dit Eric Barrage tout à l'heure.
Ouais. Alors, bon, d'abord, comment on y arrive
Avec la passion.
Oui, bien sûr.
C'est la passion du handball qui fait qu'on arrive à cette responsabilité. Après, il faut aussi faut la vouloir, mais oui, c'est la passion du handball qui nous mène.
Vous êtes aussi un pratiquant donc émérite depuis des années.
Ça fait exactement 54 ans que
j'ai
fait du handball.
Donc vous avez connu des époques du handball où ce sport-là était un petit peu moins, j'allais dire, médiatisé.
C'était confidentiel à mon époque, effectivement, le handball. Dans les années 70, 71, 72, c'était confidentiel, effectivement.
Ouais. Toujours en Île-de-France ?
Non.
Non, d'accord.
Non, je viens de Picardie. Des Hauts-de-France.
Et là-bas, c'est un sport qui est aussi sa place.
C'est un sport qui a sa place, oui, avec un gros club qui s'appelle l'US Dunkerque, qui est très pas trop mal quoi en ce moment. Voilà.
Alors, l'Île-de-France, je pense que c'est le vivier le plus important, quoi. C'est un petit peu comme ça le foot, quoi.
Éric Baradal vous l'a dit tout à l'heure, la Ligue Île-de-France, c'est la plus grosse Ligue de France, avec ses 57 500, tout près de 58 000 licenciés cette année, avec une grosse progression entre l'année post-JO, on va dire, puisqu'on a fait plus de 4 000 licenciés en plus. Sur
cette année-là.
Cette année, entre les JO, les résultats des filles, effectivement, y est certainement pour quelque chose. Je pense que si les garçons avaient fait le même type de résultats, je pense qu'on aurait explosé. Mais c'est une grosse problématique. C'est une grosse problématique aujourd'hui sur l'Île-de-France. C'est la capacité des clubs à pouvoir accueillir le nombre de licenciés qu'on a. Et
ça veut dire qu'il n'y a pas cette salle ?
Vous me le retirez de la bouche, effectivement. Ouais, la problématique de structure en Île-de-France est très, très compliquée. Je crois qu'on est, peut-être la plus grosse Ligue de France, mais on est aussi la moins bonne au niveau structure, en nombre d'habitants.
Mmh. Voilà. Quel est, j'allais dire, le département où c'est le plus facile et le plus difficile ?
Oh, il n'y a pas de département plus facile.
Il n'y a pas des départements.
Il n'y a pas de département plus facile, plus difficile.
Où il y a moins de problèmes d'infrastructure.
Le plus gros problème d'infrastructure aujourd'hui, c'est la ville de Paris.
Oui, non, mais ça, voilà, c'est ce que tout le monde dit quand ils viennent au micro.
On va pas se mentir. Oui, on va pas se mentir. C'est la ville de Paris, effectivement.
Bien sûr.
On va pas polémiquer par rapport à ça, mais effectivement, les infrastructures de la ville de Paris sont très, très vétustes, en plus d'être très, très peu qualitatives et quantitatives.
Mm-hmm. Tiens, il y a Madame la maire adjointe, donc Madame Lucchini, qu'on a vue il y a quelques semaines au téléphone de Corse. Hein.
Tout à fait.
Bonsoir, Madame Lucchini.
Bonsoir.
Comment ça se passe pour Meudon, pour le Hand, justement ? Vous pouvez recevoir tout le monde ?
Alors, nous, on essaie de recevoir tout le monde, ouais. Et justement pour faire le rapprochement par rapport aux villes d'Île-de-France ou Paris. Nous, depuis 2017, où je suis maire adjointe au sport, la priorité, c'était de mettre les infrastructures, de les remettre à niveau. Mmh. Et donc, j'étais venue à la maison du Hand,
oui.
Avec mon directeur des sports, Philippe était là, pour voir justement... tout ce qui était revêtement et pouvoir proposer donc aux sportifs donc là au handball les meilleures conditions possibles. Donc le club de hand de Meudon ça se passe très très bien et ça nous permet aussi d'accueillir des événements comme le tournoi
on va en parler tout à l'heure,
voilà.
Mais et vous avez pas refusé de monde, vous avez pas refusé de monde?
Non, il y a pas eu de refus d'adhérents. Et le sport est très important pour Meudon.
Oui. Philippe, depuis quand date vraiment le boom du hand? Dès les premiers résultats, là, 92, après les Jeux de Barcelone, 95, il y a des jeunes qui, justement, se sont identifiés donc à ces médailles olympiques ou ces titres mondiaux et qui ont voulu faire du handball?
Moi, je pense que les premiers Jeux olympiques, la première médaille olympique,
92,
première médaille d'or, a été importante. Mm-hmm. Les deux triplés de suite.
Oui. Oui.
Champion olympique,
oui.
Champion du monde, champion d'Europe.
Oui.
C'est aussi une
dans 2000,
la foulée,
c'est ça,
ouais, tout ouais. À fait. Voilà, ça a été très très important aussi pour le développement du handball. Là, on parle du côté masculin.
Les filles, ça arrive un petit peu après.
Eric vous l'a dit un petit peu plus tard. Effectivement, l'histoire du premier titre de championne du monde des filles
2003,
avec ses 7 buts de retard à 8 minutes de la fin contre la Hongrie, qui était hyper hyper favorite. C'était le hold-up parfait, quoi. Voilà, ouais. C'est le hold-up parfait, ce titre de champion olympique.
Et alors vous, aujourd'hui, donc, en tant que président de Lille, votre mission première, c'est quoi? C'est justement qu'on puisse avoir des infrastructures, on se batte auprès des communes, des communautés de communes, pour que tout le monde puisse pratiquer ce sport.
C'est beaucoup de problématiques à gérer, on va dire. Ouais. La problématique des infrastructures. On est en train en ce moment de travailler avec l'ensemble des rectorats via une personne responsable de la Fédération française de handball qui s'appelle M. Georges Potard, qui est l'ancien président de la Ligue Île-de-France de handball, qui a pris cette responsabilité au sein de la Fédération pour justement travailler avec les rectorats pour mettre des terrains amovibles qui vont être vendus pas très cher, on va dire, par rapport à ça, puisqu'on a un partenariat avec la société Gerfleur. Mmh. Et donc, pour justement mettre ces terrains amovibles sur l'ensemble des collèges, des lycées, voire dans les communes. Effectivement, on travaille aussi avec les communes. Je crois que madame le maire de Meudon, madame la maire adjointe au sport de Meudon, vont aussi profiter de cette opportunité. Donc, on passe aussi par là. C'est le développement passe aussi par là.
Et est-ce que d'autres formes de handball, c'est aussi important?
Je sais
qu'on a visité là, le hand à 4, c'est ça?
Ça va servir. Justement, ouais. Ces terrains de handball sont principalement faits pour faire du hand à 4, pour faire une autre activité que le handball à 7, pour attirer justement les personnes d'affaires du hand à 4 et après, éventuellement, les rediriger vers le hand à 7 pour celles qui vont accrocher à cette pratique.
Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des catégories où c'est plus difficile? Parce qu'on parlait tout à l'heure des études. C'est toujours l'éternel problème. Il y a peut-être des jeunes qui aussi...
On
arrive à tout concilier, à s'organiser
aujourd'hui
pour
on
le club.
A trois catégories d'âge sur la région Île-de-France. Moins de 12, de 13, 16 et plus de 16. Mm-hmm. Quand on regarde le nombre de licences sur ces catégories, on est pratiquement à égalité. On est peut-être un petit peu plus sur les petites catégories. Mais sinon, on est pratiquement à égalité dans les 15 000, 16 000 licenciés sur ces catégories.
D'accord. Et puis, le centre, on y forme aussi des arbitres, on y forme aussi des dirigeants.
Ça fait partie, ouais. Effectivement, du PPF, du parcours de performance fédérale. Mmh. Fournir, entre parenthèses, les équipes de France, comme vous l'a dit Eric tout à l'heure.
Oui.
Donc, fournir les équipes de France, que ce soit les équipes de France masculines, les équipes de France féminines. Aujourd'hui, la Ligue Île-de-France, et Eric vous l'a dit aussi, c'est une grosse, grosse fournisseuse de talents pour les équipes de France, que ce soit masculin ou féminin. Oui. Voilà, aujourd'hui, il ne vous en a pas parlé tout à l'heure, mais dans pas très très longtemps, il y a un regroupement de 65 jeunes filles qui viennent des interligues qui ont 15 ans, ouais. qui viennent à la maison du handball, qui ça fait partie
ouais,
aussi
qui viennent de toute ça fait voilà, partie, on parlait de Bordeaux tout à l'heure
juste après les finales ouais. des interligues pareil qui sont mmh. où l'équipe de la ligue finit deuxième après avoir été championne de France des Interpol. Grosse performance aujourd'hui cette année sur les équipes de ligue féminine. Et on espère le même résultat dans pas longtemps pour les garçons, qui vont partir à Celles-sur-Belle dans pas longtemps. Donc voilà.
Vous êtes combien à la Ligue à travailler? Alors il y a des salariés, il y a des bénévoles.
Il y a beaucoup de bénévoles. Ouais. Aujourd'hui, on est, si on compte tout le monde, on est 50-60 personnes.
Ah quand même,
Avec l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des salariés, l'ensemble des personnes des auto-entrepreneurs qui travaillent aussi pour nous.
D'accord.
Voilà, donc on est une cinquantaine, soixantaine de personnes.
Alors, la même question qu'à l'entraîneur, le fait d'être dans les mêmes bâtiments que la fédération, c'est plutôt un avantage?
C'est un avantage pour nous, effectivement, parce qu'on bénéficie des structures qui sont, comme l'a dit Eric tout à l'heure, qui sont incroyables. Donc on utilise nous aussi l'ensemble des salles pour faire des formations, on utilise les gymnases pour faire des formations, voilà, on a beaucoup de choses, on a nos formations pour les TFP4, TFP5.
C'est-à-dire c'est les éducateurs ça?
C'est éducateurs et entraîneurs de handball, TFP4 éducateurs, TFP5 on est entraîneur de handball.
D'accord. Il y a beaucoup de vocations pour passer de l'autre côté de la barrière.
Il y a ce qu'il faut. Le renouvellement oui, se fait aussi bien au niveau, se fait au niveau joueur, mais se fait aussi au niveau encadrement.
Mmh. Voilà. Et il y a des cours d'arbitrage aussi, je pense.
Tout à fait. Oui. Ouais. Moi, pour ma personne, par exemple, je suis passé aussi par l'arbitrage, puisqu'avant d'être président de la Ligue, j'ai aussi été président d'un comité. Et avant, j'étais aussi président de l'arbitrage sur le comité sur lequel j'étais président après. Voilà.
Très bien, on va marquer une petite pause musicale, hein. Puis on se retrouve d'ici quelques minutes. On y va. La pause musicale et puis ensuite donc, on parlera notamment du tournoi des quatre nations.
Merci.
Allez, on y va, c'est bon.
Faith.
Voilà, donc sur mon Paris Sport, exceptionnellement depuis la Maison du Hand, hein, sur Créteil, hein, émission que vous pourrez naturellement réécouter en podcast. Encore merci en tout cas à nos amis du Hand de nous avoir ici très gentiment reçus à Créteil. Philippe, on peut donc aussi venir en séminaire, hein, un petit peu partout, comme à Clairefontaine, comme à Marcoussis, comme à Saint-Quentin.
Tout à fait, ouais. Effectivement. Éric vous l'a aussi dit tout à l'heure, effectivement. La maison de handball, c'est un très bel endroit pour justement les séminaires d'entreprise qui viennent ici. On a un très très bel auditorium, on a des salles de cours et tout pour éventuellement l'anglais effectivement.
Ah ouais.
Are you sure? Yes.
Ah ouais. Donc on parlait un peu d'une histoire d'amour entre la ville de Créteil et puis le centre. C'est pour ça qu'on l'a mis sur Créteil, quoi. Il y a quand même un historique, un passé.
Il n'était pas prévu au départ sur Créteil du tout. Mais, non, pas du tout.
C'était où
pas, c'était
au Boulogne, départ, non, ouais, Boulogne, non. Au départ, il y avait plusieurs projets. Au départ, c'était Boulogne. Codombes. Après, Codombes, de Codombes, c'est parti à la Croix-de-Bernie.
Ah oui.
Moi, j'ai eu la chance d'amener le président d'Elplanck à la Croix-de-Bernie parce qu'on avait, la RATP, l'US Métro avait 18 hectares et puis il voulait le céder. Pour des raisons que j'ignore, ça, bon, malheureusement. Et du coup, l'avril de Créteil s'est propulsé.
Oui, mais Créteil, il y avait une belle équipe de handball.
Ce qu'il faut, savoir aussi, c'est que.
Un peu moins.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le département du Val-de-Marne.
Oui.
Est un département très très handballistique, on va dire, puisqu'il y a deux gros clubs de D1 aujourd'hui.
On ne sert pas très fort en ce moment.
Avec l'US Créteil, l'US Créteil et l'US Ivry. Mais bon, Ivry, ça ne va pas très fort cette année. Mais bon, ce n'est pas grave. Ils vont descendre en D2, ils vont remonter en D1 l'année prochaine, ce n'est pas grave. Mais c'est un très très gros club masculin. C'est aussi un gros département féminin, puisque la Stella Sport Saint-Maur est en D1 féminin aussi. Donc il y a trois gros clubs de D1 masculin-féminin sur le département du Val-de-Marne, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de licenciés. Je crois qu'ils ont dépassé cette année les 8000 licenciés sur le département. Donc c'est gros, gros. Et le maire de Créteil, effectivement, est très investi dans le handball. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a deux de ses petits-fils qui jouaient à l'US Créteil. Donc effectivement, ça Et puis, il y avait des terrains du département qui étaient disponibles. Donc, voilà.
Il y a aussi des visites de jeunes qui viennent.
Ah, tout à fait.
Ouais. Des écoles qui viennent aussi.
Il y a des opérations.
Des journées portes ouvertes.
Il y a des journées portes ouvertes de la Maison du Handball qui sont gérées par la Ligue Île-de-France, justement. Et il y en a quatre ou cinq par an, effectivement, où on reçoit effectivement les enfants des écoles, mais de toute l'Île-de-France. Il n'y a pas que de Créteil, mais de toute l'Île-de-France. La dernière fois, c'était Villebon sur Yvette qui sont venus, effectivement.
Alors, il faut savoir qu'en marge de ce tournoi de Meudon, il y a le tournoi de Villebon. Et chaque année, à la mairie de Villebon, une semaine avant, on organise une journée handball. Et ils viennent visiter la maison du handball. Avant le tournoi, ils rencontrent l'équipe de France, bien sûr.
Ah ouais, bah oui, c'est...
Et après, les jeunes, le vendredi, reviennent à Villebon, justement, quand l'équipe de France joue. Et ils voient, en fin de compte, les filles à l'entraînement.
Bah oui.
Et derrière, ils viennent les revoir au match, quoi. Et donc, ça fonctionne très bien. Pour des événements qu'on fait, ça fonctionne très bien, une visite. Et puis derrière, c'est super, super pour les gamins, quoi.
Mm-hmm. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Quand ils arrivent là, ils doivent avoir des étoiles plein les yeux.
Je crois qu'il n'y a pas que tout le monde en fin de compte, quand on ne connaît pas la maison du handball ou quand la première fois, moi je suis arrivé au château Ricard à l'époque, j'étais de foot.
Ah oui, oulala, putain de Stéphane Kovac.
Voilà. Et on en prenait plein les yeux. Il y a une ici, quand on vient, simplement quand vous rentrez et que vous avez la vitrine des trophées, vous êtes tout de suite dans l'ambiance.
Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez des problèmes de violence aussi dans votre sport?
Comme tous les sports.
Ah ouais, ça m'a étonné quand vous m'avez dit ça.
Comme tous les sports, mais on arrive à gérer. Hein, c'est pas une problématique. Après, c'est le problème, il est aujourd'hui nous.
Les parents, vous allez me dire.
Sur les jeunes et les parents, effectivement. C'est la problématique. C'est aujourd'hui plus les parents que les joueurs ou voilà. On est sur cette problématique là. Les parents qui veulent que leurs enfants soient les champions du monde de demain. Et donc, il y a des dérives, on va dire, dans les tribunes, effectivement.
Mais jusqu'à aller sanctionner, parfois durement Non, oui. C'est-à-dire enlever les, carrément
cette
les
année,
licences.
Cette année, il y a eu une radiation, effectivement.
Ah, oui, oui.
Voilà. On a eu une radiation cette année au niveau de la Ligue.
Mm-hmm. Jadis, le hand est un sport à émanation scolaire, beaucoup, souvent.
Ben, ça,
ça a gardé un petit peu ce...
ça...
Aujourd'hui, non.
Le départ, le départ, oui, ça, le départ du handball, c'est effectivement, c'est
dans
scolaire.
Les cours de gym, on a tout fait du handball.
On a, voilà. On a des accords avec l'UNSS, l'UCEP, l'USGEL, voilà, oui, voilà. Avec eux, donc on est effectivement, on travaille beaucoup avec eux. On a des conventions et il y a beaucoup de jeunes, on l'a dit, qui viennent ici. On a des championnats académiques, on a des championnats universitaires qui viennent ici à la maison du handball pour se faire. Donc,
beaucoup. Et après, donc, les compétitions déroulent en général le week-end au handball. Samedi,
en championnat de France, on va dire que principalement sur les filles, on a quelques matchs le mercredi, le jeudi aussi, suivant les Coupes d'Europe, par exemple, sur les garçons. Mm-hmm. Mais effectivement, oui, sur les amateurs, c'est beaucoup le samedi et le dimanche.
Donc vous êtes le sport le plus titré au niveau équipe nationale.
Hein, il semblerait.
Oui, ouais, c'est vrai. Mais pas au niveau des clubs. C'est le basket au niveau des clubs.
C'est compliqué. Ouais. Mais c'est bon, voilà. C'est comme ça. Peut-être qu'un jour, le PSG y arrivera. Montpellier a été champion d'Europe. Hein. Faut pas l'oublier quand même.
On en parlera dans les résultats.
Malheureusement, le PSG, ça s'est terminé un peu plus tôt que prévu.
Oui, effectivement.
Ouais. Par contre, ça marche un petit peu mieux pour les filles au handball, au niveau des Coupes d'Europe quand même.
Un petit peu mieux. Brest et Metz, effectivement. Ouais, bah, la problématique, c'est qu'ils vont encore se rencontrer ce week-end en demi-finale de Coupe de France. Et Metz a été gagné à Brest. Ils vont se rencontrer en demi-finale de Coupe d'Europe. Ça va encore être... Okay. Voilà, je ne sais pas, on verra bien. Peut-être que ça changera.
C'est en
quart de finale.
Ah, mais il faut savoir
en quart de finale, après il y a le final.
Ça fait depuis 2-3 ans qu'il y a toujours eu une équipe au moins en Final Four.
Ouais, c'est ça. Hein. C'est bizarre quand même, Metz et Brest, comme ça. L'Est et l'Ouest.
Oui, il manque plus que le centre, Paris.
On avait Paris 92 l'année dernière qui finit 3e.
Les féminines sont en finale de Coupe de France. Hein.
Contre Metz, justement. Ouais.
Contre Metz.
Il faut savoir quand même que la ville de Meudon aurait été représentée il y a 3-4 ans. À Percy pour la finale de la Coupe de France départementale. Non, départementale, oui.
Oh, oui, tout à fait. Un très, très beau match. Hein. On a été invité, d'ailleurs. Et grosse opération. Hein. Ouais. Puis à Percy, quoi, là. Mm-hmm. Donc, c'était mes débuts au niveau pour supporter le sport de haut niveau à Meudon. Et on était là pour l'occasion. Mais, grosse opération.
Alors, parlez-moi un peu de ce qui attend donc Meudon pour le hand le week-end du 11 au 13 avril, tournoi des quatre nations. C'est grâce à toi, Philippe.
Je ne m'approprierai pas ce tournoi parce que
sûr que tu as dû aller taper aux portes de la mairie, dire tiens.
Je suis d'accord.
En fin de compte, oui, ce tournoi il a été monté. En fin de compte, on a commencé bêtement, je vais dire. Mm-hmm. C'est que on a reçu l'équipe des États-Unis à Meudon.
Pas mal quand même.
Et qui était Edina Borsos, qui entraîne Satamon, que c'était une dame qui était la manager générale de l'équipe de France, que je connaissais depuis des années. Elle m'a dit, Philippe, est-ce que tu peux me trouver un endroit pour faire pour préparer un tournoi? Et c'était une qualif pour aller, je ne sais plus, les Panaméricains. Elle me dit, j'ai dit, écoute, viens à Meudon. Et j'ai rencontré l'élu. Elle me dit, banco, on y va. Et là, de fil en aiguille, elle me dit, je voudrais faire des matchs amicaux et tout ça. Je lui dis, écoute, on a la chance d'avoir l'équipe du Maroc sur Paris, parce que presque toute l'équipe du Maroc joue en Île-de-France, quasiment tout coup de balle. Et je demandais aussi à Eric Baradas si ça l'intéresserait de se faire ce tournoi. Et en fin de compte, on s'est retrouvés à trois équipes. On a commencé ce tournoi comme ça.
D'accord.
Et un tournoi complètement amical. Hein. Il n'y avait rien de structuré. Enfin, structuré, je m'entends. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'affiche. Il n'y avait rien. On a dit, allez, on y va. Et de fil en aiguille, Philippe m'a dit, Eric Baradas m'a dit, est-ce que tu ne voudrais pas organiser ce tournoi des quatre nations à Meudon? J'en ai parlé au président, qui est là. Il m'a dit, allez, banco, il faut qu'on rencontre la ville de Meudon. On a rencontré la ville de Meudon et le département 92. Et ce tournoi est parti comme ça depuis 3 ans.
Ouais,
sa 3e édition.
Ouais, c'est ça.
Et voilà comment ça s'est... Et tout le monde est content de cet organisation. Il y a Nicolas qui est à côté de nous, là, qui est le directeur du tournoi, qui organise ça de main de maître. Ouais. Parce que si on n'a pas un directeur de tournoi, nous, on amène ce qu'on peut, mais il est là pour tout gérer, parce que, croyez-moi, derrière, c'est toute une...
Ouais. Une logistique.
Toute une logistique. Ouais. Donc, la mairie de Meudon, elle nous a dit banco, elle nous prête les installations, on a les employés municipaux qui font un grand boulot avec nous, les élus, enfin voilà, c'est parti comme ça, et puis on ne sait pas où on va aller.
Oui, parce que donc, c'est effectivement sur 3 jours, il y a 4 équipes, et pas n'importe lesquelles, hein, France, Norvège, République tchèque et Serbie. Donc l'équipe de France part pour gagner, hein, c'est ce que nous a dit la capitaine.
Exactement,
mais
voilà.
Mais la Norvège, c'est peut-être l'équipe à redouter.
Non, quoi, oui, parce que bon, de toute façon, les 4 équipes hein, sont c'est du haut niveau, hein. C'est vrai que la Norvège.
Oui, bon, en fin de compte.
Et là, c'est sur les U20, donc bon, même nous Françaises, hein, quand on les voit jouer sur le terrain et qu'on est vraiment à côté, au niveau des 4 nations, ça joue, mais c'est impressionnant. Hein, impressionnant. Donc, évidemment, j'aimerais bien que la France gagne, bien sûr, mais. La Norvège, je pense que...
Oui, et puis je pense, attention, le premier match, il ne faut pas les laisser les 2 autres équipes.
Non.
Parce que, bon, l'équipe de France est championne du monde l'année dernière de moins de 20. Il y a vraiment ces nouvelles générations qui arrivent. Et il faut savoir que la Serbie a fini quand même 6e du championnat du monde.
Mm-hmm.
Donc, on s'attend toujours à quelque chose avec la Norvège parce que c'est un pays en balistique.
Bah oui.
Mais attention, l'année dernière, c'était l'Espagne qu'on avait, non ? De mémoire, l'Espagne, on a été vraiment surpris de l'Espagne. En fin de compte, 2 Espagnols, c'est une très très grosse équipe.
Et puis ça ne joue pas sur un seul match. Voilà, sur 3 jours, c'est plusieurs matchs. Donc,
C'est ce qu'on va dire. Donc c'est un tournoi, évidemment.
Ouais, c'est un beau tournoi.
Il y a 3 journées, donc 11 avril,
le 12 avril,
et, le 13, voilà. Puis, Et s'il y a des équipes égalité, c'est les Golavrages.
Oui, c'est
match
ça.
Particulier.
Non, c'est au Galavérage. Toutes les équipes se rencontrent. Et puis, à l'issue de ce tournoi 1, 2, 3, 4, on élu aussi la MVP, on élu la meilleure gardienne et on élu la meilleure buteuse. Mmh. Et, en fin de compte, on essaye de mettre toutes ces jeunes filles, quelles que soient les équipes, c'est un vrai championnat. C'est pas qualificatif, mais ça leur sert dans leur progression en balistique de haut niveau. Un jour, quand ils vont être au championnat d'Europe ou au championnat du monde, ça se passera comme ça. Et on fait exactement. Et cette année, on a eu la chance que la fédération nous donne le gerfleur officiel. Donc, on va avoir vraiment le gerfleur officiel des compétitions nationales, internationales. Et on va te poser, ça va commencer dès mercredi, avec Nicolas, des bénévoles de la Ligue, et en même temps, les employés de la ville de Meudon.
Oui, pas Paris.
Tout le monde.
Et tout le monde donne un coup de main, et franchement, heureusement que la ville est là quand même.
Si ça marche, c'est que dans ma politique sportive qui est soutenue par le maire de Meudon, hein, Denis Aguirreau, c'est le sport pour tous, c'est le sport de compétition, le sport féminin. Et donc, ça va complètement dans la continuité du sport féminin. C'est vrai qu'en général, on fait carton plein au niveau des spectateurs. La com a été là. Hein,
Et puis là, on va faire l'opération de hand ensemble. C'est quoi les équipes qui viennent de hand handicapées ?
Oui. Oui.
C'est Meudon contre...
Vas-y, non, mais...
On a à la demande de la ville de Meudon aussi,
handisport. Parce que depuis les JO, en fait, on a été considéré comme ville haute, parce qu'on a accueilli pour l'entraînement des sports handicap. Et donc, on a été considéré comme ville haute. Donc, c'est vrai qu'on le sport handicap, dans tout... En général, c'est important pour nous. Donc là, on pouvait profiter, en fait, de ce tournoi pour faire... du handisport, quoi. Hein.
Donc, oui, bien sûr.
Du sport adapté. Donc,
ça permet aussi de faire voir que la ville aussi a une politique dans ce sens-là. Et la Ligue aussi.
Oui, alors justement, est-ce que la Ligue aussi fait beaucoup pour le hand handi?
Je ne vais pas vous dire non.
Oui, non, mais bien sûr. Vous pouvez me dire qu'il y a axes d'amélioration.
Il y a toujours des axes d'amélioration dans cette... Ouais. On a une personne qui est référente, 2 personnes qui sont référentes sur le handicap. Que ce soit sur le hand fauteuil ou le hand sourd. Il y a championnats qui ont été mis en place par la Fédération française de handball aujourd'hui. Il y a, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une finale de Coupe de France des Handsourds qui va avoir lieu à Paris. Donc on est aussi sur cette...
Les mêmes week-ends que les finales de Coupe de France.
En même temps.
17 et 18 mai.
Fauteuil et Handsourds, le 17 et 18 mai à Bercy.
Voilà. Ah oui. On y sera de toute façon.
J'espère.
Et puis il y a quand même les finalités qui sont au Kremlin Bicêtre.
Oui, et puis il y a les finalités, les journées du Hand Ensemble qui sont au Kremlin Bicêtre sur la Ligue Île-de-France qui vont avoir lieu dans pas très longtemps. Là, voilà.
Mm-hmm. On parlait tout à l'heure avec l'entraîneur, les résultats des jeunes sont très bons. Toutes les équipes jeunes, ça fonctionne plutôt très bien au niveau des résultats.
Oui. Non, au niveau des équipes de France jeunes, au niveau des équipes jeunes, que ce soit au niveau pour la Ligue Île-de-France, oui, on a des très, 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 très bons résultats. Mm-hmm.
Philippe ?
Non, c'est vrai, ça, on a la chance d'avoir des pôles qui fonctionnent très bien au niveau de l'Île-de-France. Les moyens sont mis aussi par la Ligue. Hein,
oui, bien sûr.
Parce qu'à un moment, sans moyens, on peut le président pourrait vous dire, on met des beaux moyens et on est content des résultats, surtout cette année. Hein.
Oui, bien sûr. Bon, s'il y avait un axe amélioré, c'est quoi ? Peut-être d'avoir des salles plus grandes ?
Non, je pense que l'amélioration, vous savez, je pense que dès l'instant où les résultats sont là, on a des gens qui viennent. L'amélioration, c'est surtout... ça serait de ne pas pouvoir dire à une jeune fille, à une jeune personne qui veut faire du handball, de ne pas pouvoir le prendre.
Oui, mais apparemment, c'est le cas.
Oui, mais bon, malheureusement, on est au fleuron et il y a beaucoup de sports qui refusent après les JO des licenciés parce que... Après, il peut y avoir les manques de gymnase et tout ça, mais il faut avoir les gens qui sont capables de s'en occuper. Et bon, ça, c'est compliqué.
Je te rejoins complètement là-dessus. Moi, j'ai des sections sur Meudon, l'escrime. On a fait une grosse compétition le week-end dernier qui comptait pour la Championnat de France. Mais après les JO, ils ont une salle, mais ce n'est pas la grande salle d'escrime. Et donc, ils ont dû refuser en fait, des personnes qui voulaient s'inscrire à la section. Donc, manque de place. Voilà. Donc, moi, je fais... On a rénové un maximum toutes les salles à Meudon, toutes les salles de sport, mais agrandir et en créer d'autres, c'est plus compliqué. Quoi. C'est la problématique des terrains sur...
Les structures.
Voilà. Oui.
Alors, la mutualisation, c'est un avantage ?
C'est...
Y compris en Île-de-France, parce que ça se fait beaucoup dans les provinces, hein, les clubs sportifs qui fusionnent les entités. Est-ce qu'en Île-de-France, il y a des coins quand même de...
Non, il n'y a pas énormément de... Ouais. De mutualisation, alors tout dépend ce qu'on entend pour mutualisation au niveau des
communes qui se regroupent ou qui regroupent leur infrastructure.
Très très peu sur l'Île-de-France.
Ouais.
Donc
c'est plutôt bon signe.
Ouais. C'est pas l'ADN de l'Île-de-France d'avoir des regroupements de clubs comme ça. Très très peu. Il y en a, mais pas énormément. On le voit sur les championnats de France jeunes, moins de 17, moins de 18, moins de 17 filles et moins de 18 garçons. Quelques, mais pas, c'est pas contrairement à la province comme où c'est
finalement c'est un peu chacun sa chasse gardée peut-être ou c'est plus compliqué que ça peut-être.
Non, c'est plus compliqué. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une identification dans la ville à laquelle on veut jouer il y a ça aussi qui
les clochers, les gardes de clochers.
Les gardes de clochers. Je pense pas que ce soit les gardes de clochers, mais quand même une identification.
Ouais.
On l'a dit, hein, le handball en Île-de-France, c'est un des sports majeurs. C'est un des sports majeurs. Il y a beaucoup de communes qui sont en national. Je crois qu'on sur l'Île-de-France, on a 60 communes qui jouent en national, entre en national 3, 2, 1 garçon, plus la D2 et la D1, et en national 2, 1 et D1, D2 et D2, D1 filles. Et on a une soixantaine de clubs qui sont sur cette sur ces compétitions, donc effectivement. Ça... Oui.
Et puis l'avantage que vous avez dans votre sport, c'est comme tous les sports de salle, il y a très peu de report, quoi. Les conditions météo, ça ne peut pas, ça peut pas jouer. Sauf si les transports en commun ne marchent pas.
Parlez-en au club d'Ivry en ce moment,
où il y a
son gymnase qui a brûlé.
Oui, bien sûr.
Il y a quand même des petits soucis.
Oui,
comme
parce qui pleuvent.
On en parlait tout à l'heure. On parlait tout à l'heure sur les problématiques sur Paris. Effectivement, de temps en temps, il y a des petits problèmes sur des salles qui sont vétustes, on va dire, sur Paris.
On l'a bien vu ce week-end, le PSG D1 est venu s'entraîner à Meudon. Ce n'est pas la première fois.
Voilà, on doit signer quelque chose.
Voilà, parce que, en fin de compte, le Coubertin a été pris par une journée de boxe.
Ah oui.
Il y avait un gros meeting de boxe à Coubertin. Donc l'AD1 professionnel, eh ben, ils ont trouvé refuge à Meudon parce que le sol, eh ben, voilà, le sol c'est tout pour un athlète. Et comme le disait l'élu, on est venu là, on a regardé le sol qu'il fallait mettre et la ville de Meudon a mis ce sol et on s'aperçoit que maintenant on a beaucoup. On a même eu les jeunes, les moins de 18 garçons qui sont venus faire un stage à Meudon.
Ah oui, oui. Équipe de France.
Équipe de France, oui, oui, tout à fait. Donc. On a l'équipe du Sénégal,
qui est venue aussi.
Qui vient souvent, donc je pense que... Et en plus, on a toutes les infrastructures, quoi, c'est ça surtout.
Oui, alors pour parler justement sur le plan international, l'Europe, c'est le niveau le plus relevé. Hein. C'est presque plus dur d'être champion d'Europe que d'être champion du monde en handball.
Bah, quand on regarde, la Norvège est championne d'Europe, et... enfin la France est championne d'Europe et la Norvège est championne du monde.
Oui, oui, non, voilà, mais c'est vrai que bon, c'est presque plus dur d'être... d'être champion d'Europe, parce que c'est le continent quand même qui a les meilleures équipes.
C'est le continent. Et c'est peut-être un des problèmes qui pose... Enfin, c'est un item qui pose problème au niveau des Jeux Olympiques, effectivement.
Oui. C'est-à-dire qu'il y a des clubs aussi, il y a des pays qui sont un peu... qui n'existent plus. La Tunisie, par exemple. Garçon-fille, qui était quand même à un haut niveau. La Tunisie a été championne d'Afrique, garçon et masculin et féminin. À l'heure actuelle, ce n'est plus le cas. En Afrique, il n'y a qu'un pays, c'est l'Angola en filles. Derrière, le Sénégal et tous les clubs, la Côte d'Ivoire, tout ça. Même s'ils ont des très bonnes joueuses, ils ne peuvent pas, aller au niveau parce que vous avez la Corée. Bon, la Corée du Sud, qui avait le Japon, mais la Corée bon, qui commence à péricliter parce que les meilleures joueuses commencent à être en fin de cycle.
Et donc Amérique du Sud, Argentine.
Voilà, l'Argentine en Amérique du Sud. Moi, j'ai très peur pour bon là, ils vont faire un gros ils vont essayer de monter des grosses équipes pour les championnats du monde, les JO aux États-Unis. Là, ils sont en train de mettre des moyens extraordinaires pour le handball. Ils arrivent même à envoyer des ambassadeurs qui viennent de Norvège. Il y a des ambassadeurs qui viennent et ambassadrices qui vont venir de France aussi pour promouvoir le handball, pour monter deux grosses équipes pour Los Angeles.
Ouais. Ouais, ça va faire comme le Qatar qui avait été en finale une année.
Ouais, le Qatar, il n'y avait pas beaucoup, de gars du Qatar.
Voilà, qui était un petit peu, c'est ce que j'allais dire.
Pas beaucoup de Qataris.
Un mix de tout, quoi.
Ouais, et en fin de compte, vous aviez la double nationalité, vous aviez deux passeports, passeport Qatar et passeport de votre pays, d'origine. Et bon, on avait deux Français quand même, qui avaient joué au Qatar quand même.
Deux
ex-internationaux en plus.
Bon, Alexandre, avant de nous donner. Le journal des sports, ça t'inspire un commentaire ?
Bah moi, le handball, c'est un sport que j'aime depuis toujours. Hein. J'ai jamais pratiqué.
Ah, il y a une belle équipe à Barcelone. Hein.
Ah oui, bah Barcelone, il y a une très belle équipe.
Oui, toi qui es.
Très très belle équipe. Après, on parlait tout à l'heure des clubs franciliens. Là, c'est un peu dommage en ce moment parce que Ivry, je pense qu'ils sont condamnés à descendre. En plus, là, il y a eu leur
stade qui a brûlé.
Leur stade qui a brûlé. Après Créteil, ils sont, je vais en parler tout à l'heure, mais ils sont aux portes du maintien.
Ouais.
Donc on verra, mais sinon le PSG, c'est un peu dommage qu'ils soient fait sortir contre Szeged parce qu'on pensait qu'ils allaient pouvoir aller un peu plus loin, quoi. Et je voulais aussi rebondir sur la ville de Meudon parce que oui, c'est une ville en fait qui, si j'élargis au-delà du handball, c'est une ville, c'est vrai que je connais bien du coup. Qui est omnisport et qui a la chance d'avoir beaucoup d'infrastructures en fait. Parce qu'il on n'a pas parlé, mais il y a par exemple le terrain de Marcel Beck, où il y a un gymnase pour le handball, deux gymnases, il y a des terrains de tennis, etc. Il y a aussi vers Trivaux-Vertugadin, où il y a le hangar Y qui a ouvert. Bon, ça, c'est pas pour le sport, mais juste à côté, il y a un stade, des terrains de tennis, etc.
Non, puis on en parlait l'autre jour, les coureurs du Paris-Versailles et puis les cyclistes connaissent
bien
le pavé des Gardes.
Le
pavé des Gardes. Et il y a aussi la superbe patinoire.
Exactement,
outre
tout ça. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est important pour le hand d'avoir leur propre infrastructure comme le foot et le rugby. Et en plus, c'est très moderne. Assez moderne.
Bon, tu nous donnes les infos sportives hors foot, parce qu'on va en parler avec Stéphane.
On commence par le cyclisme.
Oui, Tour des Flandres, avant Paris-Roubaix.
Par le cyclisme, le Tour des Flandres, et c'est Tadej Pogacar, du coup.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude, en 5h58 minutes et 41 secondes, suivi par le Norvégien Pedersen et le Néerlandais Van der Poel. Premier français du classement, c'est Aurélien Paré-Peintre, qui termine seulement 16e. Chez les femmes, la française Pauline Ferrand-Prévot est passée tout près de l'exploit. Termine deuxième de la course. Elle a été devancée par la spécialiste belge Lotte Kopecky. C'est ça. Lauréate pour la troisième fois.
Ça fait deux champions du monde qui ont gagné sur le Tour des Flandres, hommes et femmes.
C'est ça. Et elle devient la première française à monter sur le podium de ce Tour des Flandres. Donc, il faut quand même le souligner. Il y avait la Formule 1 ce week-end aussi.
Oui, bien sûr.
Troisième Grand Prix.
Enfin, Verstappen.
Verstappen de Red Bull qui remporte son premier Grand Prix de la saison, suivi par les deux McLaren, Norris et Piastri. Au classement des constructeurs, McLaren leader avec 111 points, Mercedes deuxième, 75 points, Red Bull troisième, 61 points, et Ferrari quatrième avec 35 points. Pour l'instant, bon, Alpine, l'écurie française, est dixième, 0 points, et dernière du classement. Snowboard cross, ça fait plaisir un peu à Vanessa.
La saison se termine, c'est fini après.
C'est fini. Oui,
plus de sport de glace, plus de sport de neige.
Et on a de la chance, c'est une Française, Léa Casta, qui a
c'est
gagné.
C'est pour ça qu'il fallait en parler.
Seulement 19 ans. Elle remporte la Coupe du Monde de snow et peut-être son premier gros globe de cristal. Elle peut mettre son premier gros globe de cristal sur son étagère.
Ah oui, parce qu'en général, c'est ce qu'on gagne quand on gagne la Coupe du Monde. Ouais.
Donc on espère que c'est le premier d'une longue série pour elle. Hockey sur glace, on nous a reproché de ne pas en parler, maintenant on en parle. Grâce à sa victoire samedi, Grenoble est sacré champion de Ligue Magnus.
Donc on n'en parlera plus.
On n'en parlera plus.
Incroyable équipe.
Jusqu'à la saison prochaine.
Grenoble.
Les Grenoblois se sont imposés 6-2 face à Angers et remportent la finale 4-1 en cumulé. Il n'y a tout simplement pas eu débat.
Les brûleurs de loups ont écrasé la concurrence.
Aucun débat. Mais de toute façon, Grenoble domine ce sport depuis un petit bout de temps maintenant.
Ça me paraît logique quand même, hein.
C'est logique.
Le pays de montagne, donc.
Il n'y a rien à dire.
Donc, chez les femmes, du coup, c'est le club francilien d'Evry-Viry
qui
remporte la Coupe de France contre Chambéry, 8-5.
Ah oui, des Estoniennes, bien.
En rugby, c'était un week-end européen.
Coupe d'Europe.
On jouait les 8e de finale de la Coupe des Champions. Et sur les 8 affiches, on avait 6 clubs français en lice. Bordeaux-Bègles a battu Ulster 43-31. Toulon a gagné contre Saracens, sans trop de détails, 72-42. Le stade toulousain a battu les Sale Sharks 38-15. Castres a gagné contre Benetton 39-37, mais l'ASM Clermont a perdu contre les Saints de Northampton 46-24 et le Stade Rochelet a perdu contre Munster 25-24. Pour les quarts de finale, du coup, on aura 4 clubs français toujours en lice et on aura de belles affiches. On aura Leinster Glasgow, Northampton Castres, Bordeaux Bègles Munster et un très alléchant Toulon Stade Toulousain.
Donc on peut avoir
deux clubs français, voire 3.
C'est un petit peu la moyenne en rugby pour les Coupes d'Europe.
Rendez-vous ce week-end pour les quarts de finale. On passe au basket maintenant, Philippe.
Paris est qualifié.
Paris qualifié, mais avant ça, je voulais parler de la victoire des filles en Eurocoupe de Villeneuve d'Ascq contre le club espagnol de Ferrol. 78-75 lors du premier match et 84-80 lors du second. 162-145 en cumulé pour Villeneuve d'Ascq. Chez les hommes en Euroleague.
Et qui se battent pour le maintien, les filles, en plus.
En plus
se battent pour le maintien, mais gagnent leur deuxième Eurocoupe.
Sacrée épopée, sacrée performance. Chez les hommes en Euroleague, bonne nouvelle puisque le Paris Basket s'est qualifié pour la phase finale malgré leur défaite face au Real Madrid 105-104 cette semaine. Monaco a perdu contre le Panathinaikos 88-76 mais est qualifié aussi. Et Lyon-Villeurbanne, bon ça on le savait depuis un peu plus longtemps, a perdu contre Baskonia 100-75 et donc du coup ils sont éliminés. Cette semaine se jouera la dernière journée avant le début des phases finales. Et en championnat, on jouait la 24e journée de Nantes et Nanterre a perdu contre Monaco 89-74. Le Paris Basket a gagné contre Le Mans au terme d'un match très serré, 106-103. Et au classement, le Paris Basket est deuxième derrière Monaco. Nanterre est onzième. Handball, vu qu'on est dans la maison du handball, on va parler du handball.
Bah oui, c'est la bonne chose.
J'ai un peu teasé tout à l'heure, mais c'est une terrible désillusion pour le Paris Saint-Germain, puisqu'ils se sont fait éliminer en huitième de finale après le match retour contre Szeged, 35-25. C'est vraiment dommage pour les Parisiens, parce qu'on pensait que c'était un match à leur portée.
Ils avaient été gagnés à l'extérieur.
Voilà, c'est ça.
D'un but,
c'était serré aussi. Ouais. Mais j'avais dit la semaine dernière que je pensais qu'ils allaient se qualifier. Bon, je me suis trompé. En revanche, Nantes, par contre, se qualifie en gagnant notamment le match retour contre le Wisla Plock 29-24 et affrontera le Sporting Lisbonne en quart de finale.
Ouais, c'est étonnant quand même. Hein. Sporting Lisbonne.
C'est étonnant, mais
il y a une grosse équipe. Et je peux vous assurer que l'équipe nationale du Portugal. Ça a été quand même le précurseur de l'entraînement d'entraîneur. Ça a été Thierry Henty qui a été à Porto. Porto qui a commencé. Et là, on s'aperçoit que. Je miserais bien une pièce sur le Portugal d'ici les prochains champions du monde.
On gagne que d'un but, là, il n'y a pas longtemps.
C'est une nation qui arrive alors.
Beaucoup de jeunes qui sont
En attendant, on avait la 22e journée et résultat des clubs franciliens. Donc le PSG se console en allant gagner 31-25 contre Chartres. Grâce à cette victoire, les Parisiens restent à 3 points devant Nantes, deuxième. Ivry enchaîne une troisième défaite consécutive, cette fois-ci contre Istres 31-30. Et Créteil aussi perd face à Dunkerque sur le même score. Au classement, Ivry est toujours dernier avec 7 points. Créteil est 14e à 3 points de la zone de relégation. Et Paris, comme je l'ai dit tout à l'heure, est leader 3 points devant Nantes. Chez les femmes, résultat des demi-finales de Coupe de France et le Paris 92, pile en finale. Après avoir battu 26-24, les Parisiennes affronteront Metz.
Ah oui.
Il a battu Brest-Bretagne 35-31. Le Paris 92 d'ailleurs qui joue au Palais des Sports hein, faut, à Issy-les-Moulineaux. Et comme d'habitude, on termine ce journal des sports avec le volleyball. Et
oui.
Match important ce soir pour les filles de Levallois-Paris, puisqu'elles elles ont gagné le match aller 3-1 pardon, contre Bordeaux. Et la deuxième manche a lieu en ce moment même.
Voilà, voilà. Très bien. Allez, la deuxième pause musicale. Merci en tout cas pour ces résultats une nouvelle fois très complets d'Alexandre de cette semaine, de ce week-end de sport. On marque une pause musicale et puis tiens, on passe au gros ballon, le ballon rond. Allez, avec notre ami Stéphane. She just a girl, but not I. Voilà, donc toujours donc pour la suite et fin de notre émission, donc Mon Paris Sport, on va naturellement parler de la page foot. Hein. Je vous rappelle que nous sommes en direct depuis la maison du Hand à Créteil. Le foot est venu donc à la rencontre du Hand. Alors, je vais saluer mon ami Stéphane Denenclos. Bonsoir Stéphane, ça va ?
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous et à tous. Ouais, bah,
d'abord tes impressions.
Bah oui, c'est génial justement. Hein. Ouais. Nous tu le soulignes, on connaît bien Clairefontaine, Marcoussis.
50 ans d'Yvelines pour le vélo aussi.
Ouais, ça, et maintenant, voir ça, c'est effectivement très, très, très sympa. Ils sont bien là.
Et nous, on a visité les installations, je peux dire que c'est du haut niveau, du très haut. C'est comme tout.
J'ai pas eu l'occasion encore de visiter, mais c'est vrai que
On va organiser ça. Bon, on aura bien une finale, 100% Ligue 1, Paris Saint-Germain-Reims, donc en Coupe de France. Le PSG a été bousculé, mais s'est imposé 4-2 devant Dunkerque. Et victoire, j'allais dire, où Reims assurera un peu plus l'essentiel devant Cannes 2-1.
Là, tout à fait. J'ai peur que... malheureusement, j'ai peur que cette finale, elle manque un peu d'intérêt déjà avant le match, même si on va nous ressortir le...
Mais c'est mieux quand même deux clubs de Ligue 1.
Non, moi je trouve pas.
Pour la notoriété de la Coupe de France.
Bah, peut-être, parce que... Mais bon, ça sera un club, si jamais il venait par un coup de chance incroyable à gagner, ça sera un club qui sera en Ligue 2, qui jouera la
Paris n'a pas battu Reims cette année, en championnat.
Ouais, voilà,
deux fois, mais enfin bon.
Oui, mais bon, faut relativiser. Mais je pense que... Ouais, peut-être. Moi, j'aurais bien aimé une équipe comme Cannes qui, par exemple, qui va en finale ou une autre surprise que Cannes, Dunkerque, si c'était pas tombé.
En tout cas, chapeau Dunkerque. Hein. Ils ont vraiment justifié leur demi-finale de Coupe de France. Hein. Chapeau, belle équipe. Hein.
Belle équipe. Moi, pour tout dire, je trouve qu'on en a fait un peu beaucoup. Sur le match le match de Dunkerque, ce qu'on voit surtout là, c'est que
hyper efficace, hyper réaliste en premier temps.
Effectivement, surtout merci le Paris Saint-Germain. Ce qu'on voit surtout, ce que j'allais dire, c'est que Paris est officiellement champion depuis ce week-end, mais est officieusement champion depuis au moins 15 jours, 3 semaines, si ce n'est plus, quoi. Donc ils vont avoir un peu de mal à terminer cette saison avec tous les événements qu'ils ont, quoi. Entre la Ligue des Champions, maintenant la finale de la Coupe de France, je veux dire, c'est un peu...
C'est l'eau des grandes équipes. Hein,
exactement, mais on voit quand même que... Non, mais c'est juste un constat. On voit que les joueurs, malgré tout ce qu'on dit, les joueurs ont un peu de mal à se concentrer sur une équipe de Ligue 2 en demi-finale de la Coupe de France quand ils savent qu'ils vont aller jouer à Aston Villa, peut-être après une autre équipe encore plus ambitieuse, quoi, le Real Madrid par exemple, si jamais ils avaient la chance de se qualifier. Ils ont joué à Liverpool, donc c'est un peu, on l'a vu encore ce week-end contre Angers, ils ont fait le boulot. Mais
oui,
bon,
ils ont fait ce qu'il fallait faire, quoi, l'essentiel.
Ce qu'il fallait faire, mais, mais bon, ça va être un gros défi pour le Paris Saint-Germain d'aller au bout sans perdre le moindre match d'ici la fin de la saison.
Alors justement, c'est le défi, parce que après cette victoire en demi-finale, Paris Saint-Germain donc qui jouera, on l'a dit, Reims le 24 mai en finale de Coupe de France, Paris a officiellement obtenu donc son 13e titre de champion de France. Ça en fait le club français le plus titré, 15 Coupes de France, 9 Coupes de la Ligue, une Coupe des Coupes qu'on a connue. Ouais. Donc le Paris Saint-Germain qui s'est imposé devant Angers 1-0. Mais outre le fait que Paris soit officiellement champion, ça a été une journée importante quand même. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette journée. Nice qui a été battu, qui continue sa dégringolade, donc battu à domicile par Nantes 2-1. Brest qui bat Monaco 2-1, alors que Monaco allait plutôt bien depuis quelques temps. Lyon qui s'impose devant Lille 2-1. Lille qui, depuis son élimination contre Dortmund, je pense qu'ils ont un petit coup de moins bien. Lens qui bat Saint-Etienne 1-0. Donc Saint-Etienne qui n'a pas profité du fait qu'ils aient récupéré la victoire sur tapis vert après leur match contre Montpellier. Ils avaient gagné donc 2-0 et on a entériné définitivement donc le résultat en ce sens. Et puis Strasbourg aussi qui fait la bonne opération, justement, parler face à Reims 1-0. Donc du coup, Reims est barragiste. À noter aussi la victoire du Havre, important, ça va peut-être les sauver devant Montpellier 2-0. Et puis Marseille qui va un petit peu mieux après sa victoire contre Toulouse 3-2.
Ouais, tout à fait. Mais maintenant, ce qui est surtout effectivement incroyable, c'est que c'est... ces résultats. Bon, il n'y a pas qu'en France, hein, dans les,
oui, regardez
les
championnats. En Espagne, pareil.
Ouais, en Espagne, c'est pareil. Même en Angleterre, pareil, Liverpool a effectivement un certain nombre, non pas encore officiellement champion, mais a beaucoup de points d'avance. Là, ils ont perdu. Donc, c'est vrai que bon, pourtant, eux ne sont plus engagés dans aucune compétition maintenant. Mais c'est vrai que c'est un peu dur pour ces équipes, les grosses équipes, de tenir la route. Maintenant, en Ligue 1, c'est vrai qu'on plus on s'approche, hein, il reste 6 matchs, donc plus on s'approche de la fin...
C'était la 28e journée.
Plus les résultats, ils ont des conséquences incroyables. Moi, pour ma part, je suis bien presque heureux d'avoir vu Nice perdre. Parce que quand on a vu ce qu'ils nous ont fait en Coupe d'Europe,
ça fait un moment, hein, ils ont eu une série d'invincibilité. Puis là,
on voit ce qu'ils, puis j'espère que ça va continuer, quoi. Ouais. Parce que quand on voit ce qu'ils ont fait en Coupe d'Europe cette année, c'est on ne peut que espérer qu'ils ne participent pas à une Coupe d'Europe la saison prochaine.
Alors justement, on va en parler. Donc le PSG est premier avec 74 points, hein, qui, je suis sûr, maintenant va tenter de rester donc invaincu sur cette saison 2024-2025. Marseille donc deuxième avec 52 points, Monaco troisième 50 points, quatrième Strasbourg 49 points, cinquième Lyon 48 points et sixième donc Nice et Lille 47 points. Donc on voit qu'il y a 5 points entre le deuxième et puis les sixièmes, septièmes. Donc l'intérêt du championnat, c'est ça maintenant, selon les places pour donc
avec
les
Coupes d'Europe. Avec à chaque fois des finales. Et puis c'est
avec des équipes qui sont très inconstantes quand même. Hein.
Ouais, avec des équipes inconstantes, sauf une, en tout cas en 2025, en dehors du Paris Saint-Germain, c'est Strasbourg.
Oui, belle équipe. Hein, Strasbourg.
Il faut savoir que Strasbourg, Paris Saint-Germain, sur les matchs retour, je pense, où il y a 3 points d'écart, je crois. Ou qui sont à une victoire. Eux, ils ont fait des nuls pendant qu'il y a eu une victoire du Paris Saint-Germain. Donc, c'est quand même une équipe. Moi, je suis absolument... Et puis, pas de maintenant. Hein, dès le mois de septembre, dès le mois d'octobre, le style de jeu, c'est d'ailleurs, ça leur a coûté beaucoup de points. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au mois d'octobre, la date exacte, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'après 8-9 journées de championnat... Rosellior, il était un petit peu sur la sellette. Hein. Il faisait partie des entraîneurs où on se demandait s'il allait pas être victime justement des mauvais résultats. Mais c'était un truc de fou, quoi. Leur façon de jouer, c'est une équipe. Quand moi, je sais que personnellement, en aimant le foot, quel que soit l'adversaire, quand il y a dimanche après-midi, par exemple, là, j'ai regardé le match de Strasbourg. Quoi.
Oui, c'est une belle équipe, on l'a dit.
On
hein,
sait que Strasbourg, ça joue bien au ballon. On l'a encore vu là. Ils mènent d'un but à Reims, super important et tout. Ils font des passes dans la surface de réparation pour relancer. Ils font des choses complètement incroyables, quoi. Donc, ils ne relâchent rien.
Bien.
Je veux dire, il n'y a que le Paris Saint-Germain et encore, elle est très loin devant les autres. Hein. Je pense qu'ils sont au moins sur 5 ou 6 points de prix plus que toutes les autres équipes depuis le mois de janvier.
Voilà. Et puis, autre intérêt pour la fin de ce championnat, ce sont naturellement les places pour le maintien, puisque Angers est 14e avec Le Havre, donc 27 points. 16e, Reims, 26 points. Donc, ça y est, Reims est barragiste, malgré sa finale de Coupe de France. 17e, Saint-Etienne, 23 points. Donc, les positions ne changent pas tellement pour les Verts. Et puis, 18e, Montpellier, avec 15 points. Bon, Montpellier qui est condamné, quoi.
Ouais. Montpellier qui nous fait vraiment une caricature de saison,
ça leur pendait au nez depuis longtemps. Quand même.
Ouais, ça leur pendait au nez. Chaque saison était de plus en plus difficile. C'est vrai que chaque saison était de plus en plus difficile. Mais sincèrement, moi, je me rappelle avoir écrit un article pour le site sur Montpellier à la trêve, peut-être à la trêve ou avant la trêve. Et le titre, c'était que Montpellier n'avait pas une tête de relégable, quoi. À l'époque, ils montraient quand même des choses intéressantes. Je trouve qu'il y avait quand même de quoi faire des choses intéressantes avec cette équipe. Et puis, tout d'un coup, tout s'est emballé. Je pense que le changement d'entraîneur aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt. Et puis, pas pour choisir Jean-Louis Gasset qui a été choisi pour raison très certainement...
Il n'y avait pas d'autre choix, je pense.
Ouais, pour raison économique, quoi. Mais et je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Des autres choix, si, il y en avait, parce qu'il y a plein d'entraîneurs, il y a plein de jeunes entraîneurs qui pas... Mais pour des raisons économiques, quand ils ont délivré les salaires, l'équipe, il était donné à 20 000 euros par mois, je crois, Jean-Louis Gasset. C'est-à-dire, en fait, pour ce qui est des entraîneurs, pratiquement gratuitement, quoi, pour ce qui est des entraîneurs... et de Ligue 1. Et peut-être qu'il n'y a personne derrière, il n'y a pas un petit jeune derrière ou un entraîneur un peu plus peut-être dynamique et tout, qui pouvait faire quelque chose. Lui, en tout cas, c'était pas l'homme qu'il fallait pour
redresser le club. Quoi.
Non, ouais, qui était, c'est ça. Ça peut être le cas pour certains clubs. Il a fait un bon boulot, peut-être avec Marseille.
Oui, il les a sauvés.
Il a fait du bon boulot à Marseille, mais sinon après, je pense qu'il faut beaucoup plus que ça.
Allez, en Ligue 2, c'était la 29e journée. La bonne opération, c'est le Paris FC qui l'a faite, hein, puisqu'ils ont battu Grenoble 2-0, après avoir battu donc 4-2 Caen lundi. T'étais au match, Jules, dans la foulée de notre émission, t'étais au match.
J'étais au match, je me suis dépêché, j'ai vu des buts, et bonne ambiance comme d'habitude, c'était sympa, franchement c'était sympa.
Ouais. Donc on va rappeler aussi donc, la victoire de Grenoble à Laval 2-1. Rodez qui bat Martigues, c'est un match hyper important pour le maintien, 1-0. Metz et Caen 2-2, machule. La Metz a laissé perdre quelques points à Caen. Lorient qui a écrasé Pau 5-0. Et puis 3 et Red Star 2-2. Ce soir, il y a Dunkerque-Guingamp à 20h45. J'ai dit que c'était la bonne opération pour le Paris FC, parce que du coup, il n'y aura pas le deuxième. Derrière Lorient, Lorient premier 61 points. Le Paris FC deuxième 58. Troisième Metz 57. Quatrième Guingamp et Dunkerque 48, mais plus 13 pour Guingamp et plus 5 pour Dunkerque. Et en bas de tableau, donc c'est très serré encore. 12e Rodez 35 points. 13e 3 Red Star et Amiens 34 points. 16e Martigues 28 points. Donc là, Martigues, ils sont décrochés. 17e Clermont 27 points. Et 18e Caen 20 points. Donc Martigues-Clermont, ça va être le match des barragistes.
Voilà, je pense que ça va surtout se résumer à ça, même si Martigues fait des bonnes choses, n'a pas vraiment démérité à Rodez, par exemple, dans un match quand même perturbé énormément par un vent affolant. Mais donc, moi, l'équipe qui m'étonne, moi, c'est Red Star, que j'ai vu jouer.
Mais c'est bien, ils vont se manier.
Il n'y a pas longtemps, j'étais voir Red Star Rodez, et franchement, vous posez la question de savoir, ils arrachent un nul un partout sans rien avoir, et vous vous demandez ce qu'ils font en Ligue 2, quoi. Et par contre, là, ils vont encore sortir un nul intéressant à 3, puisqu'ils sont, ils ont 33, je crois, donc ils sont à 5 points devant Martigues, donc ils ont fait aussi un...
Oui, oui, il y a un petit trou, je pense que ça devrait être bon, là. Même si c'est serré entre eux, ça devrait être bon.
Il ne reste que 5 matchs, hein.
Ouais, c'est ça.
Et Martigues, regardons les adversaires de Martigues, hein. Enfin, c'est Metz, Lorient, Guingamp. Metz, Lorient, Guingamp.
Ça va être compliqué,
et
là.
Je ne sais pas quoi d'autre. Et Paris FC, même peut-être. Voilà, Paris FC, Metz, Lorient, Guingamp. Quoi.
Ah, donc, ça va être compliqué pour Martigues.
Il faudrait qu'ils gagnent 3 ou 4 de leurs matchs pour arriver à s'en sortir éventuellement, à rattraper ou Red Star, ou 3, ou Rodez, par exemple.
Alors, pendant que Paris FC jouait son match donc, vendredi soir, au même moment, il y avait le Paris 13 Atlético dans la 28e journée de National qui jouait pas bien loin, match nul entre le Paris Atlético et Nancy 2-2. Ils ont mené à un moment le Paris Atlético et puis Nancy,
ils
donc
ont mené,
c'est revenu au score.
Menés,
Donc, victoire aussi de Rouen à Boulogne-sur-Mer 2-1. Le fait que Nancy finalement fasse match nul, derrière, on n'en profite pas véritablement, puisque Le Mans a aussi fait match nul devant Bagne 1-1. Match nul pour Sochaux-Versailles 0-0. Et victoire de Nîmes à Quevilly-Rouen 1-0. Donc Nancy en tête à 49 points devant Boulogne-sur-Mer 2e 47, 3e Le Mans 45 et 4e légèrement décroché, donc Orléans 39. Et en bas de tableau, il y a 13e, donc Quevilly-Rouen et Versailles 30 points. 15e, le Paris 13 Atlético 28 points qui pour l'instant serait sauvé. 16e Nîmes 27 points et 17e Châteauroux 25 points. Mais Versailles et Nîmes n'ont pas encore eu leur match d'exemple.
C'est pour ça que c'est, que,
c'est très serré.
Que le Paris Atlético reste finalement bien placé, c'est un point très 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 précieux pour le Paris Athlétique.
Bien sûr. C'était pas évident qu'il y ait un match nul.
Ouais, tout à fait. Ouais. Donc non, c'est vraiment je pense que c'est un très bon résultat pour.
Très bien. Allez, on va finir avec les féminines. Il n'y avait pas de journée de championnat. Par contre, il y avait une Ligue des Nations. Donc, c'était la 3e journée. L'équipe de France a battu la Suisse 2-0. Donc, et elle joue demain soir contre la Norvège à 19h. Elle est en tête quand même avec 9 points. Devant la Norvège, 2e, 4 points. 3e, l'Islande, 2 points. Et 4e, la Suisse, 1 point. On va rappeler qu'elles avaient battu la Norvège 1-0 et puis l'Islande 3-2 donc, dans les matchs précédents. Bon, pour l'instant, tout va bien pour cette équipe.
L'équipe de France est féminine. On attend le championnat d'Europe pour être déçu, hein, c'est toujours pareil. Hein. Ou les Jeux Olympiques, ou la Coupe du Monde, ou le championnat d'Europe. On attend ça pour être déçu. Hein. Pour l'instant, Pour l'instant, tout va bien.
Très bien. Merci Stéphane. C'est une semaine de Coupe d'Europe.
Ouais, c'est une semaine de Coupe d'Europe. C'est une semaine.
T'as deux petites minutes. Comment tu vois ça, Dotron?
Comment je vois ça? Je vois pas. Comment je vois ça? Ouais.
Les vieux démons vont pas revenir quand même.
Non, mais je me méfie des clubs anglais.
Mouille-toi, Stéphane.
Ouais. Les vieux
démons. Je me méfie des clubs anglais. Non, je pense que Paris va faire un bon résultat contre Aston Villa au match aller. Mais après, ça sera un match retour qui va être un peu angoissant.
Oui,
mais normalement, sur le papier, Paris est favori.
Oui.
Et puis sur le papier, Lyon aussi, même si Lyon, c'est pas extraordinaire. Lyon est aussi favori par rapport à Manchester. À United qui ne met pas un pied devant l'autre, quoi, tout simplement. Quoi.
Parce qu'on a oublié, il y a Lyon aussi, donc voilà. Lyon peut faire un beau parcours.
Là, je dis que les Anglais jouent un film, mais normalement, je pense que cette semaine, les deux clubs français vont passer. J'attends aussi avec beaucoup d'intérêt le Arsenal-Real Madrid.
Oui.
Parce que le problème, c'est que c'est le Real Madrid, c'est toujours le Real Madrid et son passé et tout, parce que le Real Madrid, c'est un peu une catastrophe. Arsenal,
ça joue pas très bien,
Arsenal
mais ça mériterait
de leur marcher dessus, si on regarde les niveaux en tout cas. Hein. Donc voilà. Maintenant, je pense quand même que le PSG doit passer contre Aston Villa. J'ai un peu plus de doutes pour Lyon, parce qu'au match retour, même si c'est une équipe qui est pas une bonne équipe, Manchester United, qui est à côté de la plaque, l'expérience européenne et tout, ça va peut-être jouer. Ça va être plus compliqué pour Lyon qui a eu un peu de chance, pas de chance, mais qui n'a pas non plus été extraordinaire contre Lille, Lyon. Donc, ils ne sont pas non plus, je pense, au top du top, donc on va voir ce que ça donne.
En tout cas, on aura beaucoup de choses à dire et à raconter la semaine prochaine. Je sais que tu restes là avec Alexandre pour au bout du foot et l'équipe qui va prendre le relais à cette émission. Je voulais quand même terminer cette émission avec ceux qui nous ont donc très gentiment accueillis. Philippe, on a deux petites minutes, il faut dire qu'il y a une télé quand même. Vous avez une télé sur des sites internet, télé handball spécialisée.
Oui. Handball TV.
Handball TV. Il faut savoir que lors du tournoi, les matchs seront retransmis sur Handball TV.
Pour ça que je voulais en parler.
Voilà. Pour le tournoi de Villemont, on avait 1 million de spectateurs par match.
Quand même.
Donc, on a fait Handball TV parce qu'en même temps, les parents des jeunes filles qui restent dans au pays, ils voient. Donc, on a 1 million par match sur Handball TV.
Est-ce que vous pensez que le hand a médiatiquement la renommée qu'il devrait avoir, les retombées médiatiques? On voit quand même un peu plus de matchs maintenant, c'est les grosses chaînes, mais voilà, juste quand on arrive en demi-finale, en finale.
Franchement, non.
Ouais, un peu frustré.
Est-ce que la faute de qui, de quoi? Je ne pourrais pas tout dire parce que je vais me retenir, mais je pense qu'il y a des torts partagés, je dirais. Il est anormal que parce qu'en finale ou en demi-finale, ça passe sur TF1. Je me rappelle du championnat du monde 2017 en France, où on n'a même pas vu l'arbitre.
France 3, je crois.
On n'a pas vu l'arbitre des récompenses parce que derrière, c'était le journal télévisé. Donc, on est champion du monde chez nous. Et on coupe ce jour-là. On coupe et on ne voit même pas l'arbitre des récompenses. Bon, il y a un vrai travail à faire. Nous, Handball TV, écoutez, ça passe bien. Tout le monde est ravi. Et tous les licenciés ont le droit de prennent ou prennent pas la chaîne. Ça marche bien. Et tant mieux pour nous.
Très bien. Ça sera le mot de la fin. Énorme merci en tout cas d'avoir invité mon Paris Sport en direct, un petit peu en décalé, mais bon, donc en direct ici, à la Maison du Hand. Merci à madame
Lucchini,
la maire adjointe. Ouais. Donc, et puis tous, donc, le week-end prochain, 11 et 13 avril, donc, à Meudon pour ce tournoi de handball féminin.
Tout à fait. Et maintenant, on a hâte et puis on sera ravis de vous accueillir également.
Bon, on sera là. Merci en tout cas, Philippe.
Merci à vous
pour l'accueil.
Bonne soirée.
Et puis, merci à Jason d'avoir été une nouvelle fois brillamment aux manettes ce soir. Il y a eu beaucoup de boulot quand on délocalise comme ça. Belle soirée à toutes et à tous. On finit en musique comme d'habitude. Et dans un instant, au bout du foot avec LAG et toute la bande. Salut, belle soirée.
Change de vie où il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de roi. Je veux être le prince de la ville.
Je suis au volant dans ma caisse. Au feu rouge, je me demande une pièce. Paris connaît aussi la S. J'ai quelques trucs à régler dans la ville. J'ai refaire, contrôle et je repars. Pourtant, j'avais de la S. Et je vois des paires de fesses. Sur le trottoir, je te raconte pas les histoires des mestres. Quand t'as une dette, Paris n'est plus gigantesque. Donc marche avec un truc dans la veste. Les embrouilles de schlag dans le bus de nuit. Le soir, y'a de l'action, donc jamais je m'ennuie. Je vais chez l'épicier, je viens me prendre un flash. Le soir au checker, ça peut vite partir en clash. La musique est sombre, le négro vient du fond.
La musique est sombre, le blanco vient du fond.
On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai pris léger et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée.
Prince de la ville, on va tout faire pour devenir les princes de la ville. Tu seras ma princesse, on va devenir les princes de la ville.
On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, très légère et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée.
3h du mat, tu dans les petites gâteries. Bonbon sur bonbon, aujourd'hui c'est Halloween. J'ai pas attendu le côté obscur pour avoir le flow de Alakin. J'suis défoncé toute l'année. À ce qui paraît, y'en a qui attendent le nouvel an. En vérité, abandonner n'est pas dans le vocabulaire. Déjà que tenter n'est pas suffisant. J'marche dans la ville, bonne et la 8. Quand il s'agit de mes billets, bébé, y'a pas de sentiment. Guette mes rétines, mes cicatrices. Comme le corps à Dolcim, mes histoires en disent long. Hier et aujourd'hui se ressemblent, mais demain sera sûrement différent. Les erreurs font grandir, j'ai un cœur de géant.
Yeah, la musique est sombre, le négro vient du fond.
La musique est sombre, le blanco vient du fond.
On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai pris léger et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée.
Prince de la ville, on va tout faire pour devenir les princes de la ville. Tu seras ma princesse, on va devenir les princes de la ville.
On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai pris léger et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée.
La nuit dans Paris Sud, je pense en grand. Sais-tu ce que ça coûte de vivre quand les gens s'endorment? À travers la vitre, je vois les feux ensanglants et les gouttes de pluie.
Et je pense,
yeah, rien ne peut m'arriver, j'ai le cœur ensommeillé. Cette nuit, j'ai mal rêvé, la douleur m'a réveillé. Faire le pont de la Concorde et revenir à pied. T'aimais au-delà de ton corps, yeah. Penses-tu qu'un jour on ira mieux? Je rêvais d'avenir à Dieu. Vu qu'on pensait finir à deux, mais tire un trait, t'as tout raté. T'inquiète avant de dire adieu. J'ai des prières à dire adieu. Je me tairai une fois enterré, mais la terre est irradiée.
À moi, tout au fond de ma vie. Bienvenue dans la ville où les témoins n'ont jamais rien vu. J'ai fait tapiner ma marie dans tout Paris. Il y a mes enfants sur pas mal de ses murs et mon alien sur pas mal de ses queues. Je suis sorti de la maison sans dire au revoir à maman et je suis pas rentré de la semaine. J'ai perdu le sommet, juste mes semelles sur la route qui mène au sommet. La voix sans les idées HLM, flow et sale, diarrhée, la flûte de la scène. Rêve de briller comme Paris la nuit, en splivant tes lèvres, je suis le prince de la vie.
Paris sud la nuit.
On est les princes de la vie. On est les princes de la vie.
MZ, yeah.
On est les princes de la vie. On est les princes de la vie. La musique est sombre, le négro vient du fond.
La musique est sombre, le blanco vient du fond.
On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai pris léger et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée.
Prince de la vie. On va tout faire pour devenir les princes de la vie. Tu seras ma princesse, on va devenir les princes de la vie.
Comme Paris la nuit, sous ses lumières, j'ai pris légère et j'ai zoné, j'ai dormi toute la journée.
Paris FM.